suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Chaque jour, des femmes et des hommes vivant en Europe se portent secours en mer de femmes, d'hommes et d'enfants venus d'autres continents. Ces gestes politiques souvent risqués constituent sans doute l'un des exemples contemporains les plus forts d'engagement pour la cause des autres. Pour mieux comprendre ce qui les rend possibles, sans doute faut-il les inscrire, ces gestes, dans une longue histoire du dévouement politique. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'historien Olivier Christin. C'est ce que nous poursuivrons avec l'écrivaine Marie Cosnet à propos de la situation aujourd'hui des migrants dans des îles, notamment des îles, c'est le titre du livre de littérature documentaire qu'elle publie aux éditions de l'Ogre. Marie Cosnet nous rejoindra en seconde partie d'émission. Bonjour Olivier Christin.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Neuchâtel et directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vous publiez au PUF « La cause des autres, une histoire du dévouement politique ». Alors c'est un livre assez vertigineux, une promenade qui nous amène depuis la Rome antique jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ses côtes méditerranéennes par exemple, jusqu'au mouvement à propos du climat pour prendre un autre exemple. C'est un livre qui se penche sur cette question de comment agir pour les autres. Qu'est-ce que c'est que le dévouement en politique? Quel est l'enjeu? Parce que je sais qu'avec vous, il y a toujours un enjeu contemporain à mener ces enquêtes aussi amples, historiquement parlant.
Alors c'est vrai que c'est un arc chronologique très long, hein, de Rome jusqu'à des allusions à la situation d'aujourd'hui, avec deux objectifs, deux enjeux. Un enjeu théorique qui est de réfléchir sur le fonctionnement de la démocratie, où on nous dit qu'aujourd'hui, et à partir de Tocqueville, que dans la société des individus, dans la démocratie libérale moderne, chacun poursuit son intérêt, et principalement son intérêt, qu'il y a un recul du militantisme, un recul du civisme, une montée de l'hédonisme ou de l'égoïsme, et qu'on aurait pu en voir les traces dans les derniers mois, par exemple, ou dans la montée de l'abstention, ou dans d'autres phénomènes, ou dans le désintérêt des jeunes.
Pas tout à fait nouveau, puisque déjà relevé donc par Tocqueville.
Voilà, par Tocqueville. Dans la deuxième partie de la démocratie en Amérique 1840, la démocratie va tarir la source des vertus civiques. Donc j'ai voulu voir s'il y avait effectivement un contenu dans cette affirmation, ou si au contraire on pouvait voir des individus de toute origine, de toute condition, de toute conviction aussi, être capables d'agir pour le bien d'autrui, d'agir de manière désintéressée, voire dans certains cas contre-intéressée en prenant des risques pour eux-mêmes ou contre leurs intérêts et d'agir pour l'humanité ou pour les migrants ou pour les pauvres ou pour, voilà.
Pour la cité.
Pour la cité, pour l'environnement. Donc pour des causes qui les dépassent et dans lesquelles ils n'ont pas d'intérêt direct. Puis il y a un deuxième objectif, c'était un objectif d'historien ou un enjeu historique, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a fallu inventer dans l'histoire pour permettre de penser l'idée que ça vaut la peine de s'engager pour la cité terrestre. Parce qu'on pourrait dire, après tout, pour le christianisme primitif, le vrai monde, la vraie vie n'est pas ici-bas. Ce monde est une vallée de larmes. Ce qui compte, c'est de préparer l'au-delà et son salut dans l'au-delà, la place qu'on tiendra à la droite du Seigneur. Donc, pourquoi s'engager dans la cité? Pourquoi chercher des honneurs qui sont vains, qui sont futiles et, en général, qui relèvent de la gloriole? Qu'est-ce qu'il a fallu changer ou retourner
pour se désengager au fond de...
Voilà, de ce schéma pour dire que ça vaut la peine de s'engager dans la cité pour les autres parce que il y a là une partie de la vraie vie, elle est sur Terre et elle concerne les autres.
Alors c'est aussi une manière particulière d'écrire l'histoire des idées. Ce que vous faites avec ce livre vraiment brillant, Olivier Christin, c'est aussi, ça ressemble beaucoup à ce que Quentin Skinner a pu faire. C'est-à-dire que c'est une histoire des idées, mais une histoire des idées qui s'enracine et s'intéresse par exemple à des documents qui sont pas forcément les textes canoniques, qui peuvent être des documents pratiques, des documents politiques, et vous portez votre attention sur tout ça.
Absolument. C'est une histoire très influencée, bien sûr, par la nouvelle histoire des idées ou par l'histoire des idées en contexte de Quentin Skinner, de ce qu'on a appelé l'école de Cambridge, mais pas seulement. Et l'idée, c'est effectivement de lire des textes très célèbres, Saint-Augustin, Montesquieu, qui fait le lien entre la République et la vertu. Les républiques ne peuvent se soutenir que par leur vertu.
Tocqueville, on l'a dit, dépenseur de la Troisième République.
Tocqueville, dépenseur de la Troisième République, moins lu aujourd'hui peut-être, à part par certains philosophes de la République. Le baron d'Holbach, Helvétius, donc des grands textes, mais aussi des auteurs moins connus, des prédicateurs, des moralistes, des fabulistes, des textes, des manuels, au fond, à destination de ceux qui allaient occuper des charges publiques, à qui on donnait les clés pour prononcer des bons discours. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Pourquoi on recherche une charge, un honneur? On leur mâchait le travail avec des recueils de ce qu'on appelle des exemplats, en fait des lieux communs. Et dans ces lieux communs, les héros romains revenaient tout le temps. Donc c'est le fil rouge du livre, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ces héros romains sur 2000 ans?
Alors, ces héros romains, vous choisissez de les mettre en scène, non pas à partir de leur moment historique, mais à partir d'un autre moment historique très important auquel on a fait allusion, qui est cette fin du 19e siècle, ce moment où se constitue en France la Troisième République, où se pense le républicanisme, avant même 1875-77, où ces grandes lois de la Troisième République vont être votées, parce que c'est le moment où ces héros romains sont convoqués par ces textes, par ces penseurs, mais ils sont convoqués à l'école d'abord pour commencer. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'a plus idée. Moi, j'ai découvert beaucoup d'entre eux et ces noms. Mais il faut bien se rendre compte que les écoliers de la Troisième République les connaissaient par cœur. Ils étaient sur les images du chocolat Poulain, ces héros romains.
Oui, oui, absolument. Sur les paquets de chicorée, les images de chocolat, les paquets de biscuits. Il y avait ces histoires de France en vignettes, un peu genre vignettes Panini, des vignettes qu'il fallait collectionner, qui racontaient l'histoire de France ou l'histoire du monde. Et parmi ces modèles donnés à l'école, aux enfants, on trouve des héros romains qui ont été imaginés par les historiens romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment où la République s'étiole, disparaît. On a inventé des figures demi-mythologiques, parfois demi-historiques, qui ont parfois existé, parfois pas, comme Marcus Curtius, comme Scaevola, Scaevola, dont je vais dire juste un mot, Marcus Curtius, voilà, il se passe un drame à Rome, un tremblement de terre, une fosse s'ouvre sur le forum romain, des flammes sortent, Rome va être engloutie par les flammes, on convoque les pontifes et les augures qui disent qu'il faut que les Romains et les Romaines jettent ce qu'ils ont de plus précieux dans la fosse pour éteindre l'incendie. Sinon la ville brûlera. Les femmes arrivent avec les fourrures, les hommes jettent de l'or, des armes. Marcus, rien n'y fait. Marcus Curtius, un jeune chevalier, arrive avec son cheval harnaché, dit, mais ce que Rome a de plus précieux, ce sont ces jeunes hommes courageux. Ils sautent dans la fosse est refermée, Rome est sauvée. Et ben, ces modèles-là, ou Brutus, le premier Brutus qui chasse les Tarquins pour venger Lucrèce, et puis qui fait ensuite condamner à mort ses deux fils parce qu'ils ont intrigué pour le retour des Tarquins. Ces gens-là sont donnés en exemple, donc des gens qui se suicident ou des gens qui tuent leurs propres enfants, sont donnés en exemple aux écoliers, dans les écoles. On fait des dissertations, des récitations, des images. Et donc j'ai voulu comprendre à quoi ils avaient servi pendant, en gros, 500, 600 ans, c'est-à-dire à partir de leur disparition, leur résurgence dans la Renaissance, avec Dante, avec la Renaissance italienne, c'est-à-dire le retour de la forme républicaine, le retour de la vita activa, la vie dans la cité, la vie politique, et pas seulement la vita contemplativa dans les monastères. Et donc j'ai suivi sur plusieurs siècles.
Alors évidemment, c'est dans les cités italiennes, ces cités de la Renaissance, qu'ils font retour, ces héros, et qu'ils font retour contre l'Église, au fond. Il y a cet épisode de Rimini, enfin de Malatesta, qui est assez extraordinaire.
Et c'est un cas extraordinaire. Mais c'est vrai que voilà, c'est un contexte, alors néo-républicain, semi-républicain, il joue un grand rôle dans les villes, Sienne, Lucca, Florence, les décors des palais, on les trouve à Venise aussi, parce qu'ils permettent de justifier deux choses. Ils permettent de justifier d'abord qu'on s'implique dans les affaires de la cité, et c'est ce que dit Leonardo Bruni, c'est aussi bien de sauver les autres dans la cité en faisant de la politique et en salissant les mains, que d'être dans un monastère pour faire son salut à soi tout seul. Et il le dit très très clairement, c'est réhabilitation de cette vie active. Et puis deuxième chose, il fallait justifier des liens d'obéissance, de fidélité, de loyauté à des seigneurs un peu immatériels, c'est-à-dire la cité, des magistrats qui changent tous les ans, qui ont été élus, et pas la fidélité à un prince ou à un grand noble ou à un roi. Et donc ça change tout, c'est des seigneurs très particulier que ces villes. Il faut imaginer comment on peut leur être fidèle, quels services on leur doit. Et ça, c'est Aérocivique. Et bien, ils montrent qu'on peut être fidèle à une idée, au fond.
Alors, je disais, c'est dans une forme de débat, de combat avec l'Église, mais au point que l'Église, un peu déstabilisée par ça, va récupérer au fond et cette idée et se mettre à transformer les saints en héros.
Absolument. Alors, normalement, il y a un partage très net entre les saints, les martyrs d'un côté et les héros romains. Et ce partage des cités, la cité terrestre, la cité céleste, et saint Augustin qui l'avait fait. Dans les héros romains, ils sont très bien, ils sont formidables, ils ont accompli des actes volontaires, libres, moraux. Il faut les donner en exemple. Mais enfin, c'est des actes qui ont été faits pour les biens terrestres, pour la gloire, et leur récompense, elle est sur terre. Et puis, ils sont pas nombreux, et puis c'est des hommes. Alors que les martyrs et les saints, c'est tout à fait autre chose. Ils sont morts pour la vraie gloire, la gloire de Dieu. Et ils sont beaucoup plus nombreux et ils sont de toutes conditions. On a des femmes, on a des enfants, on a des gens modestes. Du coup, s'il y avait un partage très net, mais devant la gloire des héros romains dans la Renaissance italienne, dans les Renaissances italiennes, l'Église va sentir qu'il y a là quelque chose à pas laisser passer, et on va commencer, par exemple dans les arts figuratifs ou dans le théâtre religieux, à représenter les martyrs comme des héros, qui n'ont peur de rien, intrépides, qui défient leurs bourreaux en disant « mais tu as que ça, vas-y, j'ai pas peur », au point où même les tyrans qui torturent les martyrs finissent par dire « assez parlé, passons aux choses sérieuses ». Donc ils sont un peu bravaches des héros, ce qui correspond à une aristocratisation des sociétés européennes au 16e, 17e, le temps des républiques italiennes s'éteint un peu.
Deuxième étape historique, parce que donc première étape, après cette disparition, cette grande parenthèse, pendant le Moyen-Âge, enfin bon, première étape à la Renaissance, deuxième étape, au moment où se construisent les États-nations ou des cours importantes, on n'est plus à la même échelle que dans ces cités italiennes, mais on a toujours la présence de ces héros romains dans une configuration différente, et ça pose d'autres questions historiques et d'autres questions politiques.
Absolument.
Olivier Christin.
La première étape, pour rendre imaginable qu'est-ce que c'est que le civisme, c'était il fallait réhabiliter la vie sur Terre, la vita activa. La deuxième étape, il fallait qu'il y ait des héros contemporains. Et on ne peut pas donner que des héros de l'ancien temps, que des héros romains. Et là, les cours vont jouer, les noblesses européennes vont jouer un rôle énorme en se comparant aux héros romains et en faisant sans arrêt la comparaison, le paragone, les héros anciens, les héros modernes, les héros antiques. Avec des panégyriques incroyables qui font de tel prince ou tel roi, ou Louis XIV, plus grand héros que Octave Auguste, que César, que Alexandre. Donc, l'importance de ça, c'est une aristocratisation qui va être critiquée très très fortement, une militarisation provisoire, mais surtout une contemporanisation. Il y a brusquement des héros aussi au XVIIe siècle, et ils sont peut-être même mieux que les héros romains. Donc, c'est ces dictionnaires de la noblesse avec des listes de noms de gens extraordinaires. Voilà.
Alors évidemment, vous poursuivez cette histoire. On sait qu'après, ce qui se passe, c'est, vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de textes des Lumières qui vous intéressent. On, au XVIIIe siècle, on voit cette question se poser différemment. Il va falloir inventer d'autres types de héros. Vous citez Voltaire, par exemple, qui va jouer un rôle intéressant sur la pensée de ces grandes figures, oui. Olivier Christin.
Là, je crois que c'est ça qui nous approche aussi de la discussion de la deuxième partie, c'est le grand tournant du XVIIIe siècle et de la cause de l'humanité, au fond. C'est d'un côté la fin de la militarisation, le congé donné à la militarisation chez Montesquieu, chez Vauvenargues, chez Voltaire. Les grands hommes ne peuvent pas être des saccageurs de campagne ou de province, des massacreurs de province. Les grands hommes, c'est aussi des médecins, c'est aussi des savants, c'est aussi des artistes, c'est aussi des hommes de lettres. Voilà. On peut se demander aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup d'artistes au Panthéon ? Mais pour eux, il y a un vrai tournant vers l'utilité sociale. Il faut que les grands hommes soient utiles, sinon ils ne sont utiles qu'à leur propre gloire.
C'est un autre modèle de héros. Enfin, on récuse les héros classiques, voilà. Militaires, aristocratiques, pour mettre en avant d'autres figures.
D'autres figures, dont on est en partie l'héritier. Et la deuxième chose, c'est la démocratisation. Du coup, on peut être grand, on peut rendre d'immenses services à la cité, là où on est, en étant un maître d'école soigneux, en étant un artisan honnête, en étant un marin courageux. Et on va voir cette démocratisation s'accentuer jusqu'à la Révolution française, qui fera des catalogues de héros civiques où on trouve des femmes, des paysans, des enfants, des jeunes. Du coup, ça permet de comprendre ce tournant qui a été qualifié de tournant humanitaire. C'est le poème de Voltaire sur le désastre de Lisbonne. C'est sentir la souffrance de ceux qui sont loin, se sentir solidaire de ceux qu'on ne connaît pas, vouloir leur venir en aide. Là où on est, en étant ce qu'on est. Il n'y a pas besoin d'être un grand prince et de commander des régiments pour être un grand homme.
Vous le disiez, c'est les prémices de ce qui va se passer à la Révolution française. C'est déjà la contestation d'une forme d'ordre hiérarchique dans la société, avec la montée en puissance de héros du peuple, par exemple. Et là, vous vous intéressez, c'est la dernière étape du livre, mais c'est pas vraiment la dernière étape, parce qu'on va prendre un peu de temps pour la Troisième République quand même. Mais cette dernière étape, la Révolution française est très importante.
Alors voilà, pour moi, la Révolution française est très importante. Alors à la fois pour des raisons d'histoire, des idées qu'on a évoquées, parce qu'on voit que la Révolution fait un peu feu de tout bois, va mélanger des traditions républicaines complètement différentes, néo-romaines, en s'imaginant renouer avec la gloire de Rome. Ils prennent, les sections révolutionnaires prennent le nom de Brutus, il y a une section Scaevola, on débaptise les rues de certaines villes pour leur donner que des noms romains, et donc ils vivent la Révolution en romain. Mais ils vont aussi convoquer d'autres idées, et ça on le voit assez bien, dans cette volonté de promouvoir, donc c'est ça qui m'a intéressé, c'est cette grammaire républicaine qui mélange des traditions différentes. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant dans la Révolution, c'est la volonté de promouvoir des formes de protagonisme ou d'engagement ou de militantisme, on dirait presque aujourd'hui, en très moderne, accessible à tous là où ils sont, c'est-à-dire là où vous êtes, en étant aubergiste de campagne, en étant servante dans une ferme, vous pouvez aider la cause de la liberté ou la cause de la République. Et donc cette idée de cause moderne, hein, qui est vraiment celle dont on va parler, c'est une cause dans laquelle chacun peut s'engager, qui est un combat collectif, en dehors même d'une structure partisane, en dehors d'une forme d'enrôlement. On peut faire des gestes pour une cause qui nous dépasse, et ça, c'est la Révolution qui l'invente, avec des procédures magnifiques. Elle consacre des jours entiers, la Convention, à recevoir les héros du quotidien, comme on dirait aujourd'hui, avec des soldats vaillants qui viennent à la barre de la Convention, montrer leurs moignons en disant « j'ai perdu mes deux mains, mais il me reste mon cœur pour défendre la Révolution », des servants, des servantes, des gens ordinaires, qui viennent raconter leur contribution à la cause de la liberté.
Cette cause de la liberté, cette cause de ces figures de héros vont être formalisées d'une certaine façon à ce moment de l'histoire qui est la Troisième République et un peu avant, parce qu'en fait cette République elle est pensée par des philosophes dès le milieu du 19e siècle, et vous commencez le livre par là, et au fond on sent bien qu'il y a quelque chose là qui se joue de décisif pour la période contemporaine qu'on vit, pour tout simplement l'installation de la tradition républicaine française, ces grandes lois dont on sait qu'elles sont aujourd'hui dans le droit positif le socle des lois constitutionnelles françaises. Olivier Christin.
Absolument, ce moment d'instauration, de réflexion des philosophes républicains dans les dernières années du Second Empire, parfois en exil, puis autour de Gambetta, puis dans les premiers mois de l'installation de la République, prennent parfaitement conscience de l'importance de cette question des héros civiques ou du civisme, puisque la République à venir ne pourra tenir que si elle est vertueuse et qu'elle peut compter sur des citoyens vertueux. Parce que et ça sera le régime du suffrage universel. Donc il faut que des citoyens soient en mesure d'exercer cette immense responsabilité qui va être la leur, suffrage universel masculin, soient en mesure d'exercer cette responsabilité et soient des législateurs justes, fassent des lois justes, les lois que vous venez de mentionner, et qu'ils soient ensuite décidés à respecter leurs propres lois. Donc la question de l'exemplarité, la question du désintéressement, on ne va pas légiférer pour soi, pour ses intérêts personnels. Il faut être exemplaire, il faut être désintéressé, il faut être vertueux pour que la République puisse durer.
Et pour ça, il faut inventer l'école.
Et pour ça, il faut l'école. L'école va jouer ce rôle de sas permettant de transformer les sujets d'un régime autoritaire auquel on ne demandait que d'obéir, en citoyen responsable et libre. Et l'école va être fondamentale, absolument.
Et donc, c'est dans cette école qu'à l'époque, on apprend aux jeunes enfants ces figures romaines, celles qui sont sur les images dont nous parlions tout à l'heure. Et l'école républicaine, elle existe toujours, mais elle a perdu le fil de cette histoire, au fond, Olivier Christin.
Alors, on a perdu le fil, et ça, je pense que c'est ce qui nous amène aussi peut-être à la situation contemporaine. C'est d'abord, ces exemples ne nous parlent plus. Qui connaît encore aujourd'hui Régulus ou Cincinnatus, à part quand on va aux États-Unis, ou qui se rappelle de Marcus Curtius, sauf si on se promène sur le Forum romain. On a un peu oublié la distinction des deux Brutus, parce que la culture classique et l'usage des humanités classiques, ça a un peu disparu. La deuxième raison, c'est aussi que la politique s'est transformée dans le courant de la Troisième République avec la naissance des organisations partisanes modernes, qui font de la politique, c'est le texte de Weber, une vocation et une profession, un métier. Et donc le discours du désintéressement, du don de soi change un peu, évidemment. Et dans une république parlementaire, c'est pas tout à fait la même chose qu'une démocratie directe. Et puis la troisième chose, c'est, je pense, une inversion au fond de ces gestes de sacrifice de soi, de don de soi, qui deviennent non seulement des moyens de construire la cité, mais des moyens de protester contre les injustices dans la cité.
Alors on va venir à cette situation contemporaine dans un instant avec Marie Cosnet et à propos de la cause de ceux qui s'engagent pour aider ceux qui veulent traverser la Méditerranée par exemple ou des morceaux de l'océan Atlantique, Olivier et Christin. Mais avant d'en venir à cette situation contemporaine, un mot encore sur cette ambition intellectuelle qui est la vôtre avec ce livre, c'est-à-dire cette dimension historique considérable. Comment vous vous y êtes pris pour écrire un tel livre qui repose évidemment sur des sources, sur des lectures, qui est une très très grande érudition, mais je pense qu'il tranche de ce point de vue avec beaucoup de livres d'historiens qui s'attachent à des micro-objets, à des micro-périodes. Il y a là une ambition intellectuelle que je trouve assez, pour ma part, fascinante.
Merci, c'est peut-être une conversion tardive parce que j'ai vraiment été très longtemps le spécialiste du micro-objet et d'une micro-période.
Les guerres de religion, le 16e siècle.
L'année 1562 essentiellement. Et donc je me suis dit, il fallait sortir quand même un peu de ça et embrasser un arc chronologique parce que le fil conducteur, il est double. C'est d'abord, comme moderniste, comme spécialiste du 16e, 17e, j'étais confronté à ce qu'on appelle les lieux communs, les banalités obligatoires, les exemples qu'il faut donner, les citations qu'il fallait donner. Courage à, chez Scaevola, dévouement, Marcus Curtius, c'était les figures obligées de tout discours, toute personne qui voulait rentrer dans des charges publiques, qui voulait prononcer un discours devant le roi. Et souvent, on considère ces recueils de lieux communs, il y en a beaucoup, 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 des encyclopédies, c'est l'âge des premières encyclopédies, c'est l'âge des histoires romaines pour les nuls, avec des dates et des dates et des tableaux pour comparer. On a tendance à pas les historiciser, à considérer que c'est des banalités, des clichés, des sources de 25e main, c'est vrai, mais on peut historiciser les usages qu'on en fait, les gens n'en faisaient pas tout le temps la même chose, et je me suis dit, là, il y a un fil sérieux. Et puis l'autre fil, c'est de prendre ces personnages. J'ai choisi quelques héros civiques romains dont on voit qu'ils sont ambigus au fond. Parce que Scaevola, c'est d'abord un assassin, c'est quelqu'un qui tente d'assassiner le roi qui assiège Rome. Alors il a peut-être une mauvaise vue, ou il se trompe, il assassine un autre, un chef de camp, ou un général. Comment peut-on faire de Brutus qui fait tuer ses enfants ou de Scaevola qui tente de commettre un assassinat, un modèle exemplaire, un modèle moral? Et je trouvais que ça, c'était un fil conducteur de suivre ces personnages bien plus ambigus que ce qu'on en voit sur les vignettes du chocolat Poulain à la fin du 19e.
De dévouement politique, on continue de parler, on en parle aujourd'hui avec Marie Cosnet qui nous rejoint, Olivier Christin. C'est après un extrait du deuxième album de Tirza, Tectonique. We'll be right back.
voice touch tips with emotions. Attract the meeting of our lips. Pursued as a rhythm, magnetize our hips. Techno to tectonic plates. With no chin. When you touch me, I melt my body. Instinct takes place. Instinct. When you touch me, I melt my body. Instinct takes place. Instinct. When you touch me, I melt my body. Instinct takes place. Instinct. When you touch me, I melt my body. Instinct takes place. Instinct takes place. Yours and your mind. As soon as you meet my face, close touch tips where our motions attract. The meeting of our lips, pursued as a rhythm, magnetized our hips. Techno to tectonic plates with no gym. When you touch me, I'm out my body. Instinct takes place. You know I'm yours. And you're mine. As soon as you meet my face. 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 As soon as you meet my face.
Suite dans les idées, Sylvain Brouwer.
La cause des autres, une histoire du dévouement politique, c'est le titre du livre d'Olivier Christin dont nous parlons aujourd'hui. À la suite dans les idées, la cause des autres, on ne saurait mieux qualifier sans doute l'engagement de celles et ceux qui, comme vous Marie Cosnet, viennent en aide à ceux qu'on appelle les migrants, à ceux qui se trouvent en exil, qui quittent leur continent, leur pays pour rejoindre les côtes de l'Europe. Vous publiez ces jours-ci Des îles, Lesbos 2020, Canaries 2021, aux éditions de L'Ogre, qui est une enquête littéraire dans un certain nombre de ces lieux, l'île de Lesbos en particulier, les îles Canaries, et puis aussi des terrains dont vous êtes encore plus familière, du côté de la frontière entre la France et l'Espagne, au Pays Basque. Dévouement, ça vous semble un mot qui correspond à la fois à ceux que vous avez vu venir en aide à ces personnes et qui sont également présents dans l'enquête, et puis au travail, à l'engagement qui est le vôtre depuis toutes ces années.
Je me suis posé la question, je savais bien que j'allais parler avec vous, et je me demande si, moi je l'entends, la cause des autres, et ce que je fais, et ce à quoi je consacre de plus en plus de temps, ce qui fait que peut-être j'écris moins, ou j'écris autre chose, ou j'écris d'une autre façon. Je me demande si la cause des autres, c'est pas ma cause, enfin, c'est une cause commune, en fait. Et je pour plein de raisons. Je donne un exemple, c'est un exemple qui suffira pas, mais c'est un exemple. Je vis donc à la frontière entre Irun et Bayonne. Entre le Pays Basque, enfin, c'est au Pays Basque, entre le Pays Basque Sud et Nord, entre l'Espagne et la France. Ça fait 4 mois. En 4 mois, nous avons eu 6 morts des frontières, 6 morts de passage empêchés. Et ces morts-là qui nous ont transformés. Je dis en nous général. Je peux parler de moi parce que j'ose pas peut-être dire me, mais enfin, nous transforment. Alors ça veut pas dire que les autres morts qui ont eu lieu ailleurs ne nous transforment pas. Le fait que ce soit sur des territoires qui sont des territoires sur lesquels on habite, on aime, on rit, on vit, enfin tout ce qu'on fait, que les autres arrivent et meurent. Empêcher, c'est simplement une conscience de plus, un pas de plus dans la conscience que l'injustice fondamentale de la séparation des mondes, comme ça, arbitraire, est insupportable. C'est insupportable. Et je me disais, En fait, j'ai une anecdote là-dessus, peut-être que ça complète la question sur le dévouement, à propos d'un de ces morts dont personne, ni les autorités françaises, ni les autorités de son pays, ne se mettaient en quatre pour identifier le corps. Avec des gens religieux de la mosquée d'Irun, nous avons réussi à identifier, à remonter et à découvrir l'identité, aller vers la famille, afin que le rapatriement, enfin tout ça, quoi. Et la personne de la mosquée d'Irun à qui je disais « Vous avez fait un travail remarquable, vous êtes remarquable », m'a répondu, j'ai dit « C'est remarquable ». Il a répondu « Non, c'est obligé ». Voilà. Et cette réponse, je m'y suis complètement reconnue. Alors, dans obligé, il y a évidemment le fait que nous sommes liés. Je ne sais pas si c'est religieux, sans doute, mais pas seulement. Mais pas seulement. Voilà.
Olivier Christin.
Merci de rappeler ces exemples. Ils sont évidemment, on comprend comment fonctionne. Pour moi, en vous lisant, je comprends mieux comment fonctionne le fait de faire des affaires des autres mon affaire aussi. Que leur sécurité, leur sauvegarde, leur bien-être, leur bonheur, pour parler comme au 18e, soit aussi ma préoccupation. C'est pas de la charité ou de la morale facile, c'est une préoccupation. Ma vie ne peut pas être parfaitement réussi et pleinement réussi à mes yeux si je ne prends pas en considération la vie de ceux qui passent en bas de chez moi et qui risquent...
On ne peut pas faire autrement.
Absolument.
Et là où ça, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être où ça se distingue de ce que vous dites, de la charité, encore de la morale, je ne suis même pas sûre que ça s'en distingue beaucoup, mais de la charité, c'est peut-être que on n'a pas... On n'a pas une idée a priori de comment ça doit se faire. Voilà, on n'a pas l'impression que c'est, que la personne en question avec qui on va faire un bout de chemin, avec qui on va tenter de, pour qui et avec qui on va tenter de débrouiller une situation administrative, par exemple, on n'a pas l'impression qu'elle devrait faire comme ci plutôt que comme ça, qu'elle devrait essayer d'obtenir ceci comme statut plutôt que celui-là. C'est là peut-être que ça se distingue de la charité qui postule a priori une manière de faire qui est autoritaire en fait.
Et puis peut-être une dissymétrie aussi dans la charité.
Oui,
quelqu'un qui est charitable et voilà, moi je viens de l'histoire religieuse, la charité chrétienne, on triait les pauvres, il y avait les bons pauvres, les mauvais, ceux qui méritaient la charité, les autres. Et c'était très asymétrique. Et là, non, c'est pas asymétrique.
Voilà, on essaie. Et pour parler d'asymétrie, revenir à l'idée du héros, ça fait vraiment du lien avec ça. Et c'est une figure, alors voilà, une personne qui je pense qu'on est tous très fascinés par le fait qu'un geste qui coûte de quelque chose qui serait de l'ordre du sacrifice, Scaevola et sa main, enfin Curtius qui se jette dans le gouffre, enfin un geste une fois pour toutes, une parole et puis les autres sont guéris, enfin voilà, le geste et la parole qui vont provoquer un après absolument définitif et radical. Ben évidemment, ça nous passionne, mais c'est exactement le contraire de ça, bien sûr, dans quoi on essaie de se tenir et dans lequel on est obligé de se tenir. Et je pense à quelque chose, à Almeria, beaucoup de bateaux arrivent depuis l'Algérie, c'est tous les jours, c'est une route dont on ne parle pas du tout, c'est une route très 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 meurtrière. À Almeria, une ONG s'est créée qui tente de dénombrer les victimes, des morts de cette mer-là, et le jeune homme qui tient le profil Facebook, Twitter, etc., s'est nommé le héros de la mer. Le héros de la mer. Alors, n'est pas héros, il n'y va pas, c'est pas de son corps qu'il paie, puisqu'il est derrière l'ordinateur, mais ça dit quelque chose, le fait de s'appeler le héros de la mer, dit quelque chose de ce désir de sacrifice. Et je trouve que c'est un peu dangereux, parce qu'à partir du moment où on est une figure à cet endroit-là, à un endroit de frontière, c'est-à-dire où on peut dire qui est vivant et qui est mort, ou en tout cas, on croit qu'on peut dire qui est vivant et qui est mort, on a un pouvoir, mais c'est comme Curtius, il est persuadé qu'il vaut beaucoup, enfin, il se donne énormément d'importance en se jetant dans le gouffre quand même. Et c'est penser quand même qu'on a un immense pouvoir, Et le problème à ces endroits contemporains de frontières avec ces héros improvisés qui veulent bien faire hein, et qu'on va pas critiquer, quoique, c'est que malgré tout, le pouvoir qu'on prend au moment où on peut dire, enfin, les gens qui attendent de savoir si leurs proches et leurs familiers sont vivants ou sont morts sont dans une vulnérabilité inouïe. Donc, le pouvoir l'est aussi inouï. Et on est dans l'inouï. On est dans l'intensité, dans l'inouï des deux côtés. Et ça c'est étrange. Voilà. C'est à penser, en tout cas.
Marie Cosnet parlait, Olivier Christin, de ce héros de la mer, celui qui s'est auto-proclamé héros de la mer. C'est intéressant parce que on est loin des héros des cités, on est loin des héros de la République, une forme d'héroïsme qui se traduit par du patriotisme. Là, au contraire, on est dans l'abolition des frontières, on est dans du mondialisme, on est dans de l'internationalisme, je sais pas comment le penser, et on est dans ces zones frontières. Donc là, il y a une vraie différence dans ce dévouement. C'est un dévouement beaucoup plus large, en fait, en quelque sorte. Je ne sais pas comment le...
Oui, absolument. Enfin, moi, je trouve votre enquête pour ça fascinante, c'est de montrer la transformation de ces formes d'action désintéressée, généreuse, altruiste, bienveillante. De montrer d'abord qu'elles sont, et vous montrez très très bien les récits, qu'elles sont extrêmement coûteuses, extrêmement dangereuses pour certains. Alors, des fois, on peut être derrière l'ordinateur, d'autres, on est sur des bateaux, où on est à la frontière, où on va aider les personnes au-dessus de Briançon dans la neige.
Et on se retrouve au tribunal.
Et on se retrouve au tribunal. Et donc, qu'il y a quand même des choses qui sont relativement difficiles, coûteuses. C'est des gens qui prennent, il me semble, des risques. Et des risques dans des combats qui sont pas les combats nationaux, les combats de construction de la cité, mais des combats
qui sont même contre les frontières d'une certaine façon.
Absolument, contre les frontières nationales ou contre donc qui contribuent à l'édification d'une cité meilleure, pas de la cité telle qu'elle est. Et ça, je trouve vraiment frappant. Et puisque vous disiez à l'instant, c'est cette volonté, pour ceux qui s'engagent, qui sont là, plus ou moins nette, hein, selon les interlocuteurs, de se demander ce qu'on fait en leur nom, ce qu'on fait en notre nom, dans les frontières où nous n'allons pas, ou dans les lieux lointains, ce qu'on fait en mon nom aussi, à Lesbos, à Lampedusa, ou lorsqu'on refoule vers la Libye des migrants, c'est au nom des peuples européens.
Au nom de l'Union européenne.
Au nom de l'Union européenne. Et d'aller voir ce qu'on fait en notre nom et de dire, eh ben non, ça c'est pas possible. Je trouve ça très frappant dans votre enquête, cette volonté de savoir.
Oui. Voilà. Marie-Cosnet. Oui. Simplement revenir un peu sur les risques que prennent les activistes, on va dire, qui s'opposent à l'empêchement.
Oui, ils sont nettement moins grands que les migrants.
Voilà, non, mais il faut qu'on le dise. Parce que même passer devant un tribunal et même risquer de... C'est très important parce que ça fait acte, ça fait geste, c'est ce qu'on disait. Ce sont des gestes d'abord valorisants, et c'est très important que ça le soit. Et en plus, ce sont des risques extrêmement minime, même si demain ce que je ne fais pas, je faisais passer une frontière. Faut pas non plus le romantiser, parce que c'est pas non, ça serait, oui, je serais embêtée, peut-être j'irais en garde à vue, mais franchement, je perds ni ma sécurité affective, ni ma sécurité, ni les liens familiaux, ni, enfin, je perds, voilà. Donc je trouve que c'est un peu dangereux aussi d'héroïser et de romantiser le risque que prennent les activistes, je dis activistes militants, de l'empêchement de circuler. Et de la même manière, même si en effet ce sont des causes qui sortent de la cité fermée de la nation, en fait, c'est pas forcément des causes qui sont contre les frontières. Moi, j'adore passer la frontière. J'adore passer la frontière, j'adore que... Oui. Quelqu'un d'autre puisse la passer aussi. Je suis pas du tout. Enfin, j'imagine pas un monde. J'aime que le monde soit.
Dire que les combats sont au-delà, que les causes pour lesquelles il faut s'engager traversent les frontières.
Voilà. Par-dessus les frontières.
Par-dessus les frontières. Peut-être plus que contre les frontières. Et puis je pense que vous avez raison sur la romanticisation, absolument. Mais il y a un échelonnement, c'est-à-dire que certains encourent quand même des risques. Je pense par exemple à Pierre Klemp, encourait des risques de prison assez sérieuses en Italie.
C'est vrai.
Ou des lanceurs d'alerte de LuxLeaks ou Julian Assange ont une vie en prison pour avoir alerté. Donc, d'autres moins, mais c'est...
Après, je trouve que le travail qui est pas moins héroïque en fait de est très ingrat en réalité. Enfin, c'est aussi un travail des exemples de tenter non pas contre mais entre les institutions, contre aussi bien sûr puisque c'est pour s'opposer à ce qui se passe, mais c'est aussi de faire entre les institutions de manière à obtenir des choses. C'est un travail de chaque instant, administratif, juridique, de travailler en étant complète des citoyens, c'est-à-dire hors institution, hors administration, hors toute forme de... rien n'institue notre place là, et pourtant... On fait énormément. Quand je parle de arriver à trouver l'identité de quelqu'un qui est mort là et dont on ne sait pas qui c'est, ce sont quand même des citoyens qui n'ont pas de mission pour ça, qui n'ont pas de mandat pour le faire, qui peuvent le faire. Quand il s'agit de faire une réunification familiale d'un enfant qui est arrivé avec un adulte qui n'est pas son parent biologique sur les îles Canaries, alors que les parents... par exemple de Côte d'Ivoire, vivent en France depuis 3-4 ans, et qu'il s'agit de faire la réunification familiale alors que rien ne peut la supposer, puisque l'enfant ne peut pas avoir de visa, il est arrivé illégalement. Comment on fait ? Eh bien, qui s'occupe de ça ? Ce sont des gens qui n'ont absolument pas de mandat ni de mission pour le faire, et qui le font pas à pas, jour après jour, presque heure après heure. Voilà pourquoi j'écris plus de littérature.
Mais c'est, alors justement, j'aimerais bien que vous en disiez un mot quand même de la dimension littéraire néanmoins de cette enquête, Marie Cosnet, parce que c'est une enquête, vous êtes allée sur le terrain, vous avez rencontré toutes ces personnes, c'est-à-dire ceux qui ont fait ces voyages, mais aussi par exemple la policière de Frontex avec laquelle vous embarquez dans un avion en direction de la Grèce. Elle vous intéresse autant que... que les autres.
Bien sûr. C'est pour ça que c'est la cause. Ce sont nos causes. Ce sont des causes communes, en fait. Tant la policière de Frontex ou le policier qui est sur le pont à Irun et qui empêche tout le monde de passer et qui doit bien penser qu'il a sur la conscience les deux dernières morts. Ça m'intéresse autant. Après, la manière de travailler, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est de savoir mieux. Je crois qu'au départ, j'y vais. Bon, évidemment que j'y vais aussi avec la seule chose que j'arrive à faire et qui me fait du bien, donc le dévouement n'est pas total, c'est écrire. Et donc, j'y vais avec l'idée d'écrire. Mais je prends des notes. J'ai beaucoup de aussi, peut-être ça va avec le dévouement aussi, mais une sorte de gêne éthique aussi à l'idée que je profiterais des histoires qui me sont racontées ou qui m'arrivent.
D'appropriation
de l'histoire. Donc, pour me débrouiller avec ça, qu'est-ce que je fais ? Je m'approprie pas, je suis dans cette histoire, donc je vais au bout de l'histoire.
C'est-à-dire, vous êtes partie prenante aussi.
Je suis partie prenante. Je dis jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au moment où la personne avec qui je chemine, donc, n'a plus besoin de moi, ou n'a plus besoin de cet accompagnement-là, ou devient un ami, et avec qui la relation est simplement. On n'a plus besoin de. Enfin, comme avec un ami, en fait. S'il a besoin, il a besoin. S'il n'a pas besoin, tant mieux. C'est toutes ces choses-là. Et après, la question de la littérature, je crois qu'elle se crée parce que on parle ensemble. Dans le livre, je raconte, moi-même, en fait, je suis, autant je mets les autres en question que moi-même, en fait. On est l'objet du livre, les gens que je rencontre et moi-même, au même endroit. C'est ça qui fait littérature, peut-être.
Olivier Christin.
Ce que vous venez de dire est passionnant. Alors, sur le rôle de la littérature, comme faire cause commune, permettre à distance de nouer des liens et puis de les renouer, de les transformer en présence, qui me fait évidemment penser à Voltaire et au très beau livre de Luc Boltanski sur la souffrance à distance, qui nous rend sensibles à ce qui se passe très loin, parfois. Et puis ce que vous avez dit aussi sur faire très attention de ne pas donner l'impression de tirer parti, prendre parti, mais pas tirer parti ou tirer profit d'eux. C'est une critique que moi j'ai rencontrée. Alors j'ai passé de longs mois à lire des prédicateurs et des moralistes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et c'est une des critiques très insistantes de l'héroïsme ou du dévouement ou de la vertu. C'est toujours ce petit parfum de soupçon. Oui, oui, en vrai, si on les voyait en privé, en fait, ils font ça pour qu'on parle d'eux. Ils font ça pour gagner de l'argent. Ils font ça pour des médailles. Ils sont très courageux sur le champ de bataille parce qu'ils veulent être promus ou être devenir général. Et ce soupçon devant l'action militante ou l'action humanitaire ou l'action morale, il y a toujours quelqu'un pour instiller le soupçon. Et donc, on est obligé de lutter sur les deux fronts à la fois de ce qu'on fait et de faire très attention à ne pas prêter le flanc à ce qui pourrait être... En fait, elle fait un livre élégant à partir de ces miséreux. Voilà. Et ça, c'est très sensible dans le livre, c'est la pudeur aussi de l'écriture, la retenue, à la fois la sympathie, la proximité et la pudeur. Et je trouve que...
Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul dispositif. Il y en a plusieurs. Enfin, si on peut parler de dispositif, parce que je suis vraiment pas du tout dans... Enfin, c'est...
Il y a une forme,
voilà. Ça s'écrit, puis après... Mais, par exemple, y a un personnage dans le texte dont je parle alors qu'il est absent, parce que je le cherche. Il a disparu. Je le cherche parce que son frère le cherche, qui me demande de le chercher. Et donc, je raconte cette quête parce que cette quête me semble être exemplaire de ce qui peut se passer. Quelqu'un disparaît en Europe. Alors lui, on sait qu'il est arrivé, que le bateau est arrivé, puisqu'on a une photo de lui à Bilbao. Je reconnais Bilbao sur l'image, et à partir de cette image de Bilbao, je cherche ce garçon. Et ça, c'est à la fin du livre, alors que le livre était prêt à être imprimé, on l'a trouvé. Je l'ai trouvé. Enfin, voilà, il est revenu plutôt. Je l'ai pas trouvé, il est revenu. D'autres personnes avec qui j'ai eu des entretiens qui étaient informels, qui racontaient parce qu'on était en train de faire autre chose, savoir à débrouiller leur situation administrative, hein, tout simplement. Mais ils racontaient. Alors à eux, si j'ai pu leur demander après, je l'ai fait et j'ai gardé leur prénom. S'ils m'ont dit oui et s'ils m'ont dit non, j'ai supprimé. Et si j'ai pas pu leur demander, j'ai changé le prénom. Pardon.
Merci Marie Cosnay. Je rappelle le titre de votre livre « Des îles ». Il paraît aux éditions de L'Ogre. Et celui d'Olivier Christin, « La cause des autres », paraît au PUF. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez écouter l'émission et vous abonner au podcast.